Nous sommes en pleine conquête du pays promis par la nation d'Israël. La bataille fait rage. Une coalition de 5 rois a attaqué des alliés d'Israël qui a volé à leur secours. Les Cananéens ont été défaits à plate couture, mais la poursuite des chefs est engagée. Je continue à lire dans le chapitre 10 de Josué. Or, pendant la bataille, les 5 rois avaient réussi à s'enfuir et ils s'étaient cachés dans la grotte de Makkéda. On les découvrit cachés dans cette grotte et on vint en informer Josué qui donna l'ordre suivant. Roulez de grandes pierres à l'entrée de la grotte et postez-y des hommes pour monter la garde. Mais ne vous y attardez pas. Poursuivez vos ennemis et coupez-leur la retraite. Ne les laissez pas rentrer dans leur ville, puisque l'Éternel, votre Dieu, les livre en votre pouvoir. Josué et les Israélites leur infligèrent une cuisante défaite et achevèrent de les exterminer tous, à part quelques rescapés qui purent regagner leur ville fortifiée. Versets 16 à 20. Dans le pays de Canaan, les grottes étaient nombreuses et profondes et servaient de refuge en période de danger. Mais comme c'était l'Éternel qui combattait contre les Amoréens, se cacher était impossible et ses rois furent découverts. On en avertit Josué qui décide de s'occuper d'eux plus tard car il avait d'autres chats à fouetter, ne voulant pas laisser échapper ses ennemis vaincus. Je continue le texte plus loin après la bataille tout en compressant. Josué ordonna de dégager l'entrée de la grotte et d'en faire sortir les 5 rois pour les lui amener. Pendant qu'on les faisait sortir pour les lui amener, Josué convoqua tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des soldats qui avaient combattu avec lui. Approchez-vous et posez vos pieds sur la nuque de ces rois. Les chefs s'avancèrent et firent ainsi. Après cela, Josué les mit à mort et les fit pendre à 5 arbres. Ils y restèrent pendus jusqu'au soir. Au moment du coucher du soleil, il ordonna de descendre leurs corps et de les jeter dans la grotte où les rois s'étaient cachés. Ensuite, on en boucha l'entrée avec de grandes pierres qui s'y trouvent encore aujourd'hui. Vers 7-9-27. Ces grosses pierres jouent le rôle de mémorial, rappelant l'intervention de l'Éternel en faveur de son peuple. Lorsque quelqu'un était pendu, c'était un signe de la malédiction de l'Éternel qui pesait contre lui. Cependant, la loi de Moïse interdisait de le laisser ainsi après le coucher du soleil. Je cite le passage. « Si un homme qui a encouru la peine capitale pour un crime a été exécuté et pendu à un arbre, son cadavre ne devra pas rester là pendant la nuit sur l'arbre. Vous l'enterrerez le jour même, car un pendu est un objet de malédiction divine. » Et vous ne rendrez pas impure la terre que l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. » Fin de citation. Lorsque Jésus-Christ fut crucifié, il fut lui aussi considéré maudit de Dieu, car il était pendu entre ciel et terre. Je lis le passage du Nouveau Testament. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Fin de citation. Jésus s'est substitué au pécheur en prenant sur lui la malédiction qui pesait sur moi. Le texte continue avec la suite de cette campagne qui a débuté suite au SOS envoyé par les gens de Gabaon. À partir d'ici, la description de la conquête devient très schématique avec un bref commentaire sur une succession de villes qui sont détruites. 7 fiefs indépendants sont mentionnés. Je continue plus loin et finis le chapitre 10. Josué conquit tout le pays, il battit tous les rois de la région montagneuse, ceux du Négev, de la plaine côtière et des contreforts des montagnes. Il extermina tous les êtres vivants sans épargner personne pour les vouer à l'Éternel, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait ordonné. Il soumit toute la région de Kadesh-Barnéa jusqu'à Gaza et le district de Goshen jusqu'à Gabaon. En une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Ensuite, Josué et tout Israël avec lui regagnèrent le camp de Gilgal. Versets 40 à 43. Tout ce chapitre relate la conquête du sud du pays promis. Personne n'a pu résister à Israël, qui a littéralement volé de victoire en victoire. Le texte s'attache une fois encore à souligner que l'Éternel est l'auteur principal de cette conquête. C'est lui qui met en déroute ses ennemis, qui leur fait essuyer une grande défaite et qui combat pour son peuple Israël. Cette extermination des Cananéens offense notre sensibilité d'homme dit civilisé. C'est quelque peu hypocrite quand on songe que notre monde moderne, bien pensant, consacre une énorme portion de ses ressources à créer l'armement le plus efficace possible pour tuer. Je rappelle que c'est à cause de leur idolâtrie criminelle et particulièrement cruelle que l'Éternel a ordonné à Israël d'exterminer les Cananéens. Dieu les avait avertis du temps d'Abraham, 420 ans auparavant, qu'ils devaient se repentir ou subir le même châtiment que Sodome et Gomorre. Israël a pris 40 ans pour faire un voyage de 3 semaines, ce qui a donné ample temps aux Cananéens pour se mettre en règle avec leur Créateur. Au dire de Rahab la prostituée, ces gens savaient fort bien que les Hébreux avaient été délivrés de l'esclavage par l'Éternel et qu'ils venaient pour conquérir leur pays à moins qu'ils ne se repentent. Cependant, ils ont choisi de persévérer dans leur voie abominable et c'est pour cela qu'ils encourent ce jugement terrible qui les voue à l'extinction. Quelqu'un pourrait rétorquer « c'est pas juste d'avoir choisi et avantagé Israël ». Oui, mais voilà. Dieu choisit qui il veut et c'est lui le critère de la justice. De plus, ce soi-disant favoritisme fut de très courte durée. Diaspora et juif sont pour ainsi dire des mots synonymes. Les descendants d'Abraham ont subi le courroux de leur Dieu et davantage souffert que n'importe quel autre peuple. De plus, leur châtiment dure depuis des siècles. Et c'est pareil pour moi. Tout homme, qu'il soit moderne et civilisé, habitant la jungle, Paris ou la province, New York ou Calcutta, s'il ne se repent pas, il tombera également sous le jugement divin. Nous voici parvenus au chapitre 11 du livre de Josué qui décrit les conquêtes du nord du pays. Je commence à lire. Lorsque Yabin, le roi de Hatsor, apprit les victoires de Josué, il envoya des messagers au roi de la plaine, ainsi qu'à ceux qui étaient établis dans la région montagneuse du nord, dans la plaine du Jourdain, au sud du lac de Génézaret, dans la plaine côtière et sur les coteaux de Dor à l'ouest. Il adressa des messages aux Cananéens établis à l'est et à l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phérésiens et aux Yebousiens établis dans la région montagneuse, et aux Éviens établis au pied de l'Hermon dans la région de Mitzpah. Tous ces rois se mirent en campagne avec leurs armées au complet. C'était une multitude innombrable, comme les grains de sable des bords de la mer. Et ils étaient équipés d'un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Ils se donnèrent rendez-vous et vinrent établir leur camp près des eaux de Mérom pour attaquer Israël. Verset 25. En conquérant tous les rois du sud et du centre du pays, Josué a, pour ainsi dire, donné un grand coup de pied dans la fourmilière cananéenne. C'est le branle-bas de combat. Hatsor était la principale ville du nord du pays et la mieux fortifiée. Elle était 25 fois plus grande que Jéricho, bâtie sur 2 niveaux, et rien que Hatsor, le bas, occupait 70 hectares. Son roi a eu vent que tout le sud et le centre du pays est à feu et à sang. Alors il se sent très mal dans ses sabots et prend donc l'initiative d'inviter tous ses confrères à une grande kermesse en l'honneur des Israélites. Aucun de ses rois ne portait l'autre dans son cœur, mais devant les armées de Josué, tous, du nord au sud, ont mis de côté leurs petites ambitions personnelles, comme celle d'avaler leurs voisins, et se sont alliés dans le but commun de faire front à Israël. Cette immense région qui va jusqu'aux sources du Jourdain, au Liban, est en pleine effervescence. On n'a jamais vu ça. Des hommes en armes et des chars par milliers sont en mouvement de partout. Tous les rois et leurs armées se rassemblent à une dizaine de kilomètres au nord-ouest du lac de Galilée, dans un endroit où se trouve aujourd'hui la ville de Méron, en Israël. Cette coalition du Nord est bien plus nombreuse que la Ligue du Sud et beaucoup mieux armée que les Israélites. Je continue en compressant. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur d'eux, car demain, à cette heure-ci, je les livrerai tous, blessés à mort, au pouvoir d'Israël. » Josué et toute son armée vinrent attaquer leurs ennemis par surprise près des eaux de Mérom, et ils se ruèrent sur eux. L'Éternel les livra au pouvoir des Israélites qui les battirent en les poursuivant jusqu'à Sidon, la grande ville, jusqu'à Mishrephoth-Maïm, ce qui signifie « incendie des eaux », et jusqu'à la vallée de Mitzpah à l'est. Ils leur infligèrent une défaite totale au point de ne leur laisser aucun survivant. Versets 6 à 8. Josué était à la fois un géant spirituel, ayant pleine confiance en la promesse de l'Éternel, et un génie militaire. C'est toujours lui qui était sur l'offensive. Lorsqu'il était sur le point d'être attaqué, il prenait l'initiative et utilisait l'élément de la surprise pour déconcerter ses adversaires. À l'aube, il se lance contre cette immense troupe qui ne s'y attendait absolument pas et c'est rapidement la déroute. Israël était divisé en quatre corps d'armée de trois tribus, chacun ayant un objectif différent. Le texte est extrêmement succinct et ne donne aucun détail des différentes batailles qui ont pourtant pris un temps considérable. Je continue le texte en compressant. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatsor, qui était autrefois la capitale de tous ses royaumes. Il tua son roi par l'épée. Il s'empara aussi de toutes les villes des autres rois coalisés. Il captura leur roi et les fit périr. Cependant, les Israélites n'incendièrent aucune des villes situées sur les collines, excepté Hatsor, que Josué fit brûler. Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à son serviteur Moïse et que celui-ci lui avait transmis. Il n'enfreignit aucun de ses ordres. C'est ainsi que Josué conquit tout le pays. La région montagneuse, tout le Négev, la région de Goshen, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, ainsi que la région montagneuse et les plaines du nord. La guerre qu'il livra contre tous ses rois dura de longues années. Aucune ville, sauf Gabaon, habitée par les Éviens, ne fit la paix avec les Israélites. Il s'en empara par les armes. Cela venait de l'Éternel. En effet, il avait rendu ces gens obstinés pour qu'ils affrontent Israël afin qu'ils soient détruits sans pitié jusqu'à leur totale extermination pour lui être voués comme il l'avait ordonné à Moïse. Verset 10 à 20. La guerre fut longue et rude pour les Cananéens qui finirent exterminés en grande partie, mais pas totalement. Malgré leurs défaites répétées, ils continuèrent à se battre jusqu'à leur quasi-disparition. Cet endurcissement à persévérer était un jugement de Dieu contre eux à cause de leur idolâtrie criminelle, comme je l'ai déjà dit. Ces récits de conquête constituent de courtes notices d'une guerre longue et complexe et qui dura au moins 7 ans. D'après d'autres textes, Caleb avait 78 ans lors de l'invasion de Canaan par Israël. Avec Josué, il était le seul rescapé de la première génération qui avait quitté l'Égypte et péri dans le désert. Or, lorsqu'il prit la ville de Hébron dans le territoire qui lui était attribué, Caleb était âgé de 85 ans. Je finis ce chapitre en compressant le texte. À la même époque, Josué alla éliminer les Anakim qui vivaient dans les montagnes. Il les extermina et détruisit totalement leur ville pour les vouer à l'Éternel. Josué conquit donc tout le pays comme l'Éternel l'avait dit à Moïse et il le répartit entre les tribus d'Israël pour qu'elles possèdent chacune sa part. Et la guerre cessa dans le pays. Versets 21 et 23. Les Anakim, en parenté avec les Néphilim, sont des géants qui furent pour la plupart exterminés par Josué. Il en resta quelques-uns et plus tard, on trouve le fameux Goliath, qui est le dernier de cette race et qui fut tué par le futur roi David en combat singulier. Le chapitre 12 récapitule les campagnes militaires israélites et sert de conclusion à la première partie du livre consacré à la conquête du pays promis. L'Éternel a tenu sa promesse, tandis que la seconde génération d'Israélites, sous le commandement fidèle et efficace de Josué, s'est montrée à la hauteur de sa mission. Le texte mentionne 33 rois en tout. D'abord Og et Sion, en Transjordanie, c'est-à-dire à l'est du Jourdain. Ces deux rois régnaient sur deux territoires qui, mis bout à bout, faisaient 240 km de long et 45 de large. Ensuite, en Cisjordanie, à l'ouest du Jourdain donc, sont énumérés les 16 rois du sud et du centre qui furent conquis, puis les 15 de la région du nord. Ces 31 fiefs étaient essentiellement des villes-états et couvraient en tout un territoire d'environ 20 000 km². Pourquoi les Écritures donnent-elles les noms des 33 rois vaincus par Israël? C'est pour nous rappeler que l'Éternel se soucie des détails, même s'il ne nous les donne pas tous. J'ai déjà mentionné le livre du juste, qui contient des informations qui ne nous sont pas parvenues, mais qui existent pour l'éternité. De plus, ces noms des 33 rois sont là pour nous rappeler qu'ils ont bel et bien existé et que les textes sacrés sont enracinés dans l'histoire, dans ce qui s'est passé, et qu'il ne s'agit donc pas de mythes. Il faut aussi garder à l'esprit que Dieu prend des notes, beaucoup de notes concernant nos faits et gestes. Qui fait quoi sur terre, quand, pourquoi et tout ça, pour le jour du grand règlement de compte. Ainsi, tout à la fin de l'Apocalypse, dans le dernier livre des textes sacrés, l'humanité tout entière est appelée à la barre du jugement dernier. Alors, deux sortes de livres sont ouverts. L'accusation possède la liste détaillée des moindres paroles, actions et pensées de tout être humain qui a vécu sur terre, tandis que la défense ouvre le livre de vie. Je cite le passage. « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Seuls auront accès à la Jérusalem céleste ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Fin de citation. D'après les livres des actions des hommes, je suis condamné et tout le monde avec moi. Il n'y a pas d'exception. Les œuvres ont un seul et unique objectif, celui de me condamner. Mais si mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, alors ça change tout, car cela veut dire que ma dette a été épongée. Les dernières paroles du Christ sur la croix furent « Tout est accompli ». Cela signifie « payé ». Et c'est ce qu'on écrivait sur une facture à cette époque lorsqu'elle l'était. Tout ceci pour dire que ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie font partie des élus et possèdent donc la vie éternelle. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.